Jacques Bainville, Paul Hewitt. Il était garçon chez Levrault, marchand de vin, et il portait un tablier de serpillière. Le père Levrault préparait pour les cochers de la cuisine bourgeoise, et parfois des messieurs retenaient la petite salle du fond où il dînait en partie fine. On venait là pour le poulet sauté. On y buvait un fleuri qui serrait vraiment la fleur. Et les habitués taquinaient Paul Hewitt. Il est temps de dire l'origine d'un surnom qui était toute son histoire. Sous le règne de Napoléon III, Joseph Gendron était venu de son village pour faire son service au fort de Vincennes. Il n'avait pas d'ambition, ou plutôt, préférant les corvées domestiques à la servitude militaire, son désir était d'être ordonnant de son capitaine. Quand il était parti, sa mère lui avait dit « Surtout, Joseph, ne va pas de l'avant !» Gendron, canonnier, suivait ce conseil de prudence. Son esprit était simple. Il prenait le temps comme il venait. Son plaisir était, le dimanche, de retrouver dans le bois des payses qui étaient nourrices ayant fauté. Et, tandis qu'elles allaitaient l'enfant des maîtres, ils chatouillaient d'une petite branche de troène le globe veiné de leur sein. Un soir, qu'il avait une permission de minuit et un peu d'argent que lui avait envoyé sa grand-mère, il dîna chez Levrault, non loin du Luxembourg. Levrault aussi était du pays. Il reconnut l'artilleur, lui demanda des nouvelles de sa famille, le servit bien et lui donna un billet de seconde galerie pour l'Odéon, dont le chef de char comptait parmi les clients du marchand de vin. Jamais Joseph Gendron n'était allé au spectacle. Il regardait la salle d'un air gêné et curieux. Et il fut tout yeux, tout oreille, quand le rideau se leva, les trois coups frappés. La scène représentait une maison avec de grandes colonnes, une maison comme il n'en avait jamais vue, et qui lui rappelait l'église de son village. Là se promenaient des personnages qui lui rappelaient aussi ceux du chemin de croix, les uns à cause de leur toge, les autres à cause de leur casque. Et les comédiens prononçaient des paroles qui parurent belles à l'artilleur, parce qu'elles étaient nobles, fortes et cadencées. Bientôt, il ne remarqua plus ni le décor, ni les costumes, ni la taille majestueuse et les bras blancs de la principale actrice, ni la musique de l'Alexandrin. Il participait de toute son âme à l'histoire qui se passait sous ses yeux. C'était une dame qu'un officier sans fortune avait aimée, et le père, un gros bonnet du temps, n'avait pas voulu du mariage. Quand l'officier était revenu, après s'être couvert de gloire dans une bataille, son amoureuse en avait épousé un autre, un prince étranger. Celui-là, elle l'aimait par devoir. Et voilà que l'officier, l'ayant revue, apprend qu'elle est mariée. Il se retire par délicatesse. Mais le mari n'est pas moins généreux. C'est un chrétien qui veut renverser les idoles et mourir pour sa foi. Il a connu l'ancien amour de sa femme. Qu'elle soit heureuse avec celui qu'elle avait choisi. Lui, il aura la palme du martyr. Alors la belle dame au bras blanc s'aperçoit que son mari est un héros. Elle partage sa croyance. Elle aspire à le rejoindre au ciel. Et tous ceux qui ont vu comme elle cette mort admirable sont émus ou convertis, même le beau-père, le préfet, qui par ordre du gouvernement a envoyé son gendre au supplice. Quand le rideau fut tombé sur le cinquième acte, le canonnier Gendron était tout chaud d'enthousiasme. Le sublime l'avait touché. C'est une chose assez connue que Corneille, ayant lu sa tragédie de Polyeucte chez Madame de Rambouillet, où se rassemblaient alors les esprits les plus cultivés, cette pièce y fut condamnée d'une voix unanime, malgré l'intérêt qu'on prenait à l'auteur dans cette maison. Voiture fut député de toute l'assemblée pour engager Corneille à ne pas faire représenter cet ouvrage. Il est difficile de démêler ce qui a pu porter les hommes du royaume qui avaient le plus de goût et de lumière à juger si singulièrement. Furent-ils persuadés qu'un martyr ne pouvait jamais réussir sur le théâtre? C'était ne pas connaître le peuple. Ainsi parle l'auteur de fameux commentaires et le canonnier lui donnait raison. Joseph rendra au fort l'esprit possédé du drame cornélien, les oreilles bourdonnantes des vers héroïques. Et quand ses camarades racontèrent l'emploi de leur permission, il dit qu'il avait été au théâtre. « Qu'as-tu vu ?» lui demandèrent-ils. Il répondit gravement, « J'ai vu Polyoute et je voudrais le voir encore. » C'est ainsi que toute sa vie, le sobriquet lui en resta, car il ne put jamais prononcer correctement le nom difficile du saint dont Simon et Tafras a rapporté le martyr. Le mois d'après, l'artilleur rendit visite à M. Levrault, son pays. Il lui parla de Polyoute, à quoi le restaurateur n'entendit rien. Il comprit seulement que Joseph aimait le théâtre et lui promit, avec l'aide du chef de claque, de lui donner d'autres billets. « Oh, vous êtes bien honnête, » dit l'artilleur, « mais jouera-t-on Polyoute ? On joue pas souvent cette tragédie chrétienne sur les théâtres subventionnés. Joseph Gendron était venu trop tard pour y connaître Rachel, et son temps prit fin sans que Polyoute eût reparu sur l'affiche. Quand il fut près de Libéré, il revit Levrault, dont la boutique prospérait, et qui, ayant besoin d'aide, lui proposa d'entrer à son service. Joseph accepta, dans l'espoir de revoir Polyoute. Il surveillait le journal et les colonnes où les spectacles sont annoncés. Il était triste lorsque, l'ayant lu le programme de la semaine, il n'y trouvait pas sa tragédie. « Mais qu'est-ce qu'il faut donc ?» disait-il entre ses dents. Car il ne concevait pas qu'une si belle pièce ne fût pas jouée tous les soirs. On la joua pourtant un 15 août pour la fête de l'empereur. Le spectacle était gratuit. Polyoute demanda congé à son patron et dès l'aube, s'étant muni de pain et de saucisson, il faisait queue aux portes du théâtre français. Enfin, il retrouvait ses héros, la sphère sublime où, d'un coup d'aile, le vieux Corneille l'avait élevé. Hors de lui, hors du monde, il suivit le drame avec ferveur. Il y retrouvait son émotion première. Il y découvrait des beautés nouvelles. À la sortie, il n'imita pas le vulgaire qui se pressait à la porte des artistes pour apercevoir Beauvalet ou Mademoiselle Favart. Il regagna le Luxembourg et sa mansarde, gardant son extase comme un croyant qui porte son Dieu. Il venait chez Levrault, un professeur que Polyoute intéressait. Exilé de l'université pour quelques vices dont l'ivrognerie était le moindre, M. Laverdure gardait le goût des belles lettres. « Mon ami, » dit-il au garçon, qui lui servait à ce moment une côtelette de veau. « Corneille a fait d'autres tragédies que Polyeucte. On les joue aussi plus souvent. Allez voir le Cid, Horace, Sidna, puisque vous aimez le grand art. » Mais Joseph Dandron n'aimait pas l'art. Et il n'avait pas de curiosité littéraire. Il n'avait pas de religion non plus. Il se méfiait même des prêtres et il lisait Le siècle comme tout le monde. Joseph Gendron était en tout comme tout le monde, à ceci près qu'un soir, il avait été saisi du frisson sacré et qu'il voulait retrouver ce frisson comme s'il eût par hasard surpris la chaste Diane au bain et qu'il eût désiré entrevoir encore la déesse. Cependant, il dispensait avec zèle le poulet sauté et le fleuri. Il traçait sur l'ardoise des additions exactes. Il était probe, laborieux, économe. Ses parents étant morts, lui avaient laissé au pays un peu de bien. Il ne se fâchait jamais quand les clients l'appelaient Pelliout. Et c'est pourquoi, aussi bon administrateur et bon père que Félix, sénateur romain et gouverneur d'Arménie, Levrault pensa que son auxiliaire était le mari que convenait à sa fille Héloïse. En dépit d'un nom fait pour les grandes amours, Héloïse ne ressemblait pas à Pauline, telle du moins qu'à l'aide de savants d'artifice, les tragédiennes la figurent sur la scène. Son nez, loin d'être grec, était Camus. Sa taille était courte et ses bras rouges à force d'avoir lavé la vaisselle. Joseph Gendron l'a pris telle qu'elle était, avec l'enseigne de la maison, la clientèle, les recettes et la cave, car il restait au fond de lui-même un paysan âpre au gain. Par tendresse conjugale, Héloïse, indulgente à la manie de son époux et en outre curieuse, voulut voir ce fameux polyeucte. On y alla le 6 juin 1870. Mademoiselle de Voyonne, au jugement des amateurs, dit « Je vois, je sais, je crois, presque aussi bien que Rachel. » La Roche lança d'une voix inspirée « À la gloire !» Mais Héloïse déclara qu'elle s'était mieux amusée au pied de mouton. La guerre et le siège donnèrent à Polyoute des distractions puissantes. Il fut enrôlé dans les compagnies de marche avec les citoyens de son âge. Durant les longues heures de garde, il pensait à son restaurant qui périclitait par la rareté des subsistances. Et pour chasser ses idées noires, il évoquait sa tragédie, la rampe illuminée et le frémissement des spectateurs lorsque le nouveau chrétien entraînait Néarque dans le temple des faux dieux. Oh, ce n'était pas que Joseph Gendron eut pour lui-même soif du martyre. Il se rappelait ce que sa mère lui avait dit autrefois, quand il était parti pour le service, et évitait d'aller de l'avant. La guerre finie, il se félicita que, grâce à sa prudence, aucune balle prussienne n'eût rencontré un de ses viscères. L'ordre étant rétabli, il recommença d'alimenter et d'abreuver ses contemporains. Alors, ayant repris ses habitudes dans la monotonie des jours, le désir lui revint de voir Polyeucte, un désir aussi jeune et aussi fort qu'après son initiation. Mais en vain, d'un œil appliqué et peu familier avec la lecture, explorait-il les colonnes Maurice. Le drame chrétien était délaissé. Cependant, les habitués du poulet sauté et du fleuri avaient reparu. On voyait parfois M. Laverdure, devenu journaliste, et qui dînait là avec des confrères. Gendron, sachant que le professeur avait acquis de l'importance, s'enhardit un jour à lui demander un service. Les gazettes ne pourraient-elles pas se plaindre qu'on représentât si peu le chef-d'œuvre cornélien ? Il est étrange, en effet, que nous soyons privés de cette bondieuserie, remarqua ironiquement M. Laverdure, qui travaillait dans la libre pensée. Lorsque la France est vouée par son gouvernement au Sacré-Cœur, il faudrait que la scène aussi fût sanctifiée et que le personnel des théâtres subventionnés se convertît. Ne vous étonnez pas, dit un autre dîneur, son compagnon, qui avait la mine rubiconde, des yeux myopes et qui paraissait connaître l'art dramatique. La loi des contrastes veut qu'on ne reprenne pas Polyeucte en ce moment-ci, justement parce que nous sommes sous le règne de Monseigneur Dupanloup. Sous Louis XV, qui avait chassé les jésuites, cette tragédie sacrée a été jouée deux fois plus que sous le pieux roi Louis XVI. On l'a joué 10 fois, de 1814 à 1830, c'est-à-dire quand des missions d'hommes noirs parcouraient la France pour la rendre au Christ. Mais 41 fois, de 1830 à 1848, lorsque le roi n'étant pas dévot, la bourgeoisie retournait à la messe. « Mon ami, conclut Francisque Sarcey en s'adressant au marchand de vin, si jamais le bien-aimé Henri V remonte sur son trône, vous n'aurez pas souvent l'occasion d'aller à la Comédie. » La prophétie se réalisa en ce sens que la monarchie catholique ne s'étant pas faite, une reprise de Paulieu eut lieu aussitôt. Joseph Gendron, qui venait de voter pour M. Barodet, républicain radical, applaudit au début de Dupont-Vernon, qu'il retrouva plus tard quand Sylvain rejoignit le rôle de Félix. Quelques années après, le soir où, pour le 2e centenaire de la mort de Pierre Corneille, Mounet Sully cueillit la palme du martyr, fut peut-être le plus beau de la vie de Paul Youth. Le temps passa. Du Théâtre Français à l'Odéon, Joseph Gendron ne perdit pas une représentation de sa tragédie. L'âge n'éteignait pas son enthousiasme. Il n'affaiblissait pas sa passion. Et il advint qu'en la dernière année du siècle, 6 juin toujours, 240-20-14e anniversaire de la naissance du poète, Joseph Gendron, saisi par une averse, prit froid en sortant du théâtre. Le lendemain, le temps étant clair et tel qu'il convenait, il en profita pour mettre en bouteille une barrique de Fleury. Il remonta de la cave avec une grosse fièvre, s'alita et ne se releva plus. Dans les rêves confus de l'agonie, il repassait sa vie. Il revoyait sa jeunesse, son village, Vincennes et le bois aux belles nourrices, le père Levrault, le restaurant, et M. Laverdure, qui était devenu ministre. Et surtout, la seule littérature qu'il eût connue remplissait son esprit de ces images grandioses qui luttaient avec les ombres de la mort. Polyeucte et Sévère rivalisaient de noblesse d'âme. Pauline s'éveillait à la foi et à l'amour. Félix lui-même était touché par la grâce. Et des anges là-haut, au son d'une musique céleste, accueillaient les martyrs. « Joseph, dit Héloïse, qui s'était approchée de son lit, c'est monsieur le curé qui voudrait te voir. » Il eut encore la force de répondre. « Mais tu sais bien que j'ai défendu qu'on l'appelle. » Il tourna la tête du côté du mur, comme pour ne pas voir le prêtre. Et il expira en murmurant « Oh, Paul Youth !»